Et tout de suite, bonsoir. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Par les temps qui courent, c'est tous les soirs une heure d'entretien avec les artistes de l'actualité culturelle et ce soir avec Lou Huberto.
Un tango, une danse, un baiser.
C'est du bouddha,
par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Qu'est-ce qu'il reste du rock'n'roll quand on lui a tout enlevé? Du jazz quand on lui a tout enlevé? De la musique populaire quand on lui a tout enlevé? De la musique savante quand on lui a tout enlevé? Il reste des bouts de trucs excitants comme un diable ivre, ému comme de la buée sur les lunettes d'une jeune femme amoureuse, immédiatement compréhensible mais à tout jamais inexplicable. La possibilité d'une histoire touchée avec les mains, dans le discontinu même du temps qui ment et qui mentant dit le vrai du vrai. Bégayer, c'est un trio, sachant tout très bien, d'instinct, avec les mains, du striptease musical et du suicide du sens, et qui parvient avec ça à fabriquer des bombes. Une fois n'est pas coutume, j'emprunte les mots d'un autre artiste pour parler du travail que vous menez avec le trio Bégayer, Lou Huberto. Ce sont les mots de Sing Sing et ce sera notre début. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Avec plaisir. Votre disque Terrain Amir, une maison rétive contrainte par le toit, est une coproduction du label Bongo Joe et Le Soul. Ça sort, ça y est, maintenant tout le monde peut l'acheter, se le procurer. On peut dire que le trio Bégayer, c'est Lucas Ravinal et Alexis Vinéis. Et donc vous, Lou Huberto. Je voudrais aussi dire qu'il y a un livre qu'on ne peut pas trouver dans les librairies, mais dans l'espace infini du web et via votre site internet, Lou Huberto. Oui. Presque.
On trouve quand on cherche, sans problème.
Ouais, et surtout quand on connaît le titre, puisqu'il s'appelle « Il n'y a aucun rythme » et « Pas de nuit ». Et c'est suivi des lettres, et c'est aussi aux éditions Le Soul. Bon, j'ai dit que Sing Sing était notre début, mais à Sing Sing, nous adjoignons la voix de John Cage.
J'aime tous les sons. J'ai pas entendu un son que je n'aime pas. Vraiment.
Ça veut dire aussi toutes les musiques.
La musique est quelquefois quelque chose dur à entendre.
Oui.
C'est plus difficile que les sons quotidiens. J'aime mieux même les bruits que la musique.
Mais la musique, c'est une espèce de bruit.
Non. C'est une espèce d'organisation.
Oui. Et c'est en ça que c'est pas bon, non?
Je n'aime pas ça.
La musique?
Non, l'organisation.
Et c'est une archive qui date de 1970. John Cage qui dit « J'aime tous les sons », mais en revanche, l'organisation des sons qui donnerait la musique, c'est un petit peu plus difficile à entendre. Est-ce que vous aimez, avant de dire ce que vous pensez de la musique, est-ce que vous aimez tous les sons, Lou Huberto?
Oui, je pense. Et je pense qu'on organise toujours. Ce qui compte, c'est de le faire chez soi, dans ses propres oreilles. J'ai l'impression qu'on a été pas mal depuis qu'on a inventé la musique à se demander où est-ce qu'elle commence. Et c'est le cas dans peut-être tous les arts premiers. Enfin, on a Peter Brook qui est au théâtre se demander qu'est-ce qu'ils font de l'acte théâtral. Est-ce que c'est simplement un acteur qui traverse un espace et quelqu'un d'autre qui est là pour le regarder. Enfin, alors la musique, c'est peut-être encore plus archaïque. Il suffirait simplement d'une personne dans un espace en face d'un paysage qui choisirait de s'ouvrir les oreilles et de se taire un moment. Et peut-être que l'acte théâtral serait déjà là. Mais ensuite, c'est aussi beaucoup de choses beaucoup plus simple, on n'a pas besoin de se poser toutes ces questions, ça peut être simplement un chant à la fin du repas, avec un bout de famille, quelque chose qu'on a plutôt, pour le coup, dans les musiques populaires, et qui sont pas ces grands tempéraments des musiques savantes. Donc tout est intéressant, bien sûr.
Et alors, si tout le monde se demande par où ça commence, pour vous, ça commence par où, la musique ? Peut-être dans un parcours de vie, par exemple ?
Ah, pour moi, c'est tout un tas de glissements, sans doute. Mais d'abord, des choses très simples. Une grand-mère italienne, très aimable et qui veut le meilleur tout en n'ayant pas forcément la réponse pour le donner, mais au moins une inscription à des cours de guitare et puis des tapes derrière la tête, pas des vraies tapes derrière la tête, mais toujours revenir pour vous demander de travailler. Puis ensuite, quand tu veux plus, c'est pas grave. Donc on peut arrêter la guitare, passer ensuite à d'autres formes, commencer à se demander ce qui nous intéresse, et puis tout doucement aller chercher des instruments qui feront sens plus directement. Il y a eu des instruments avant, de la clarinette, du saxophone. Il y a eu le chant, et puis ensuite, à nouveau, les cordes, mais les cordes inventées, qui étant peut-être un peu plus primaires, fondent une composition d'elle-même. Et ça, c'est assez heureux d'avoir cette espèce de simplicité des trois cordes.
On y viendra sur ces cordes inventées parce que c'est aussi tout un mouvement de fabrication et d'invention des propres instruments, pour reprendre vos mots, qui font sens. Puisque vous parlez de la guitare et des tout débuts, est-ce que le chant est tout de suite associé à ce premier élan, à cette grand-mère italienne et au début de la musique ?
Il est associé, oui. Après, sur des choses... Je chantais des chansons de Jodassin, des grands tubes qu'écoutait ma grand-mère sur des cassettes et qu'elle me transmettait, par exemple. Il n'y a pas eu tout de suite l'intérêt pour les chants traditionnels et populaires, puisque, comme beaucoup, je suis plutôt un élève de l'école républicaine. J'ai pas tellement été amené dans une tradition. Enfin, j'ai eu quelques souvenirs de chant, mon grand-père qui jouait la mandoline dans la salle du fond, mais...
C'est pas rien, ça peut laisser des traces quand même.
Oui, bien sûr.
Et donc, du coup, vous dites plutôt Jodassin, école républicaine, c'est-à-dire quoi? Plutôt chanson française qui passe à la radio, en fait.
Oui, c'est-à-dire, c'est ça, une culture de masse qui crée des métèques comme moi, qui n'ont pas vraiment rien pour s'identifier, et donc finalement à peu près toutes les curiosités du monde, puisque on cherche à un moment à non pas à se trouver, mais plutôt à voir ce qui produire des glissements, trouver des variations singulières. En tout cas, c'est peut-être ça qu'il faudrait exciter le plus.
Et à partir de cette grande curiosité, puisque tout était possible, rien n'était fixé, vous allez très directement vers un répertoire traditionnel ou d'autres choses rentrent dans la maison avant ça ?
J'ai fait des musiques improvisées très extrêmes avant de m'intéresser au répertoire traditionnel. Je ne sais même pas si on peut dire que je m'y intéresse aujourd'hui d'ailleurs au répertoire traditionnel, mais c'est peut-être plutôt un geste qui nous passionne. Moi et mes copains. Mais oui, bien sûr, il y a
qui
eu...
Qui serait quel geste, alors ? Parce que c'est vous qui avez parlé du répertoire traditionnel, c'est pas moi.
Oui, bien sûr, c'est vrai. Et j'aurais peut-être pas dû, mais... la tradition, alors ce serait peut-être plutôt la musique populaire, mais alors populaire, pas du tout la musique pop, la musique du peuple, la musique des gens. Qui est une sorte justement d'intuition, du geste qui vient directement et qui les principes de la musique populaire, c'est manger, boire et parler. Enfin, c'est parler de l'agneau qui est en train de cuire, ou de sa bonne cuisson ou non, et c'est se faire des blagues autour d'une table. Et c'est pas plus que ça. Enfin, Et ensuite, ben, c'est, cette chose-là est passionnante puisqu'elle est un objet inquiétant aussi pour toute une idée du beau qui serait une donnée universelle du beau. Enfin, les musiques populaires, c'est peut-être des choses qui viennent non pas les inquiéter, mais en tout cas les mettre à l'épreuve aussi. Enfin, et c'est une chose qui est assez heureuse, à mon avis.
Et c'est plutôt cette énergie-là ou ce geste-là qui vous intéresse qu'un répertoire, sans dire que ça ne vous intéresse pas, mais qui aurait plusieurs centaines d'années et sa transmission, c'est éventuellement le moment où on se dit qu'on va chanter ce qu'on vit, quoi.
Oui, c'est cette espèce d'abolition entre, enfin, d'abolition de la frontière entre le moment musical et la vie, tout simple. C'est quelque chose qui existe partout dans le monde. En fait, finalement, ce qui est, enfin, je dis pas du tout ça pour inventer une quelconque critique des formes savantes. Au contraire, elles me passionnent de même. Mais oui, c'est très important qu'elles soient justement aussi mises à l'épreuve. Et cette espèce d'invention de la musique de concert, qu'on se rende compte qu'aussi il y a une musique qui n'est pas une musique de concert. Et qu'elle est passionnante.
Et comment on fait pour justement continuer de faire des concerts, tout en justement en déstabilisant le cadre, en déstabilisant le moment où ça commence et ça s'arrête? Peut-être on peut parler, bégayer, de la manière dont vous avez fait beaucoup de la musique après la fin. Non, c'est vrai, non? Parce que tout à l'heure vous disiez, on se pose toujours la question de quand ça commence la musique. Mais en fait, vous aussi, ça fait des années que vous vous dites, bah, peut-être que quand c'est fini, ça continue.
Oui, bien sûr, bah, ça continue toujours, c'est jamais fini. Oui, bah peut-être qu'il faut en même temps déborder le cadre. Ça se fait pas théoriquement. Enfin, ça c'est toujours placé dans le réel à un moment où c'est possible ou non. Et puis c'est l'affaire de tout le monde, pas seulement du musicien. Bah oui, et puis peut-être chercher cet endroit où on est plus seulement musicien, mais dans un espace avec un auditoire qui en est pas forcément un, c'est plutôt un tas de singularités. À un moment, je faisais du théâtre et puis je cherchais des moyens d'amener le public à réagir, enfin, comme on a été plein à le faire à l'adolescence, à mon avis. Mais bon, on se demandait est-ce qu'il faut choquer, est-ce qu'il faut placer des personnes préparées à l'intérieur qui se mettraient à crier pour que tout le monde s'y mette. Mais bon, c'est très mécanique. Alors comment on fait? Peut-être qu'il faut aussi simplement, en fait, faire des formes généreuses et qui agissent comme ça et puis qui vont pas chercher avant la représentation à produire quelque chose sur le public. Enfin, ce qui arrive, arrive. Et c'est aussi peut-être l'intelligence des musiques improvisées, c'est de se dire que, bon, d'avoir tendance à se dire qu'il n'y a rien avant que ça commence, mais peut-être qu'il pourrait ne rien avoir après que ce soit fini, comme vous disiez. Alors peut-être faire la musique de l'après que ce soit fini, qui n'est pas un après, c'est juste un continuum. Enfin.
Thank you.
C'est le titre qui ouvre le disque tel qu'il est enregistré. Après, on peut les mettre et les écouter dans l'ordre qu'on veut. Terrain Amir, une maison rétive contrainte par le toit. Et c'est un titre qui, dans sa traduction française, s'appelle La Pente, mais qui est chanté en arabe, l'Ouberto. Peut-être, par quoi on commence? Par le titre de ce disque-là? Un titre en trois temps, comme un petit poème, qui est très ouvert. Tout à l'heure, vous disiez, puisque finalement, on a fait de nous des métèques, ben, on peut aller partout. Ben, ce disque-là, il me semble vouloir absolument être ouvert à tout.
Oui, oui, ben oui. C'est, moi, c'est un jeu, cette image-là. Bon, de toute façon, bégayer, c'est un jeu de copains. L'image, on peut dire que c'est comme une image qui pense... qui est là pour errer ou pour se perdre. On peut imaginer qu'un terrain est là, alors pourquoi pas un plateau de montagne, qui est peut-être notre paysage structurant à tous les trois. On peut y mettre une maison rétive. Pourquoi rétive? Ce qui produit le fait que cette maison soit rétive, c'est le fait qu'elle le soit. C'est peut-être ça encore, cette espèce de condition métèque, contrainte par le toit, c'est donc contrainte par elle-même. Et dans ce paysage, on peut voir absolument rien, ou quelques animaux manger un peu, quelques arbres lancés par du vent, et puis y mettre à peu près ce qu'on a envie d'y mettre. Les textes doivent nous perdre, sans doute, dans ce paysage.
Vous dites que bégayer, c'est un jeu de copains et que peut-être vous avez un paysage en commun qui serait un paysage structurant. Est-ce que vous pensez, Louberto, que ça peut avoir quelque impact sur la musique que vous faites tous les trois? Le fait que voir des montagnes ou voir pas grand-chose et des montagnes ou beaucoup de choses dans des montagnes et quelques animaux qui mangent, ça peut peut-être faire que vous faites cette musique et pas une autre?
Sans doute, après, les paramètres doivent être tellement nombreux qu'il est difficile de s'arrêter là-dessus plutôt que sur autre chose, mais on s'est dit à un moment que, en tout cas, d'avoir des endroits où se taire ou crier, enfin, ce qui est à peu près la même chose, c'était aussi un bon support pour des musiques extrêmes, enfin, que cette voix qui s'assume hurlante, c'est quelque chose qui ne vient peut-être pas aussi évidemment quand on vit dans un tout petit appartement au milieu de Paris avec des voisins qui s'énervent dès que la musique est un peu trop forte. Alors nous, on peut aussi très bien aller se perdre dans un tout petit coin de montagne, tout petit puisqu'immense, et puis prendre le temps de chanter un peu.
Et quand vous dites cette voix qui s'assume hurlante, le fait d'utiliser le mot assumer, c'est parce que c'est pas forcément simple? C'est pas forcément simple de faire une musique qui hurle?
C'est sans doute beaucoup plus simple que de faire une musique en demi-mesure. Pour moi, ça a été toujours beaucoup plus simple d'être tout de suite dans un saut, une espèce de courir. Courir devant la scène au milieu des gens, de les pousser avec la tête. Et du coup, comme c'est deux choses qui me semblent quand même assez proches, le silence et le cri, dans le sens où ce serait peut-être toutes ces choses, le bégaiement, ça va avec ça aussi, cette idée de bégayer, c'est un mode de... une parole qui est comme assez adéquat, au moins pour parler de tout ce qui se presse derrière la langue, jusqu'à exploser ou être simplement avalé, une sorte d'implosion permanente, et qui est aussi une réaction ou un regard, ou en tout cas quelque chose qui est produit par l'observation du monde et de la saturation des gestes, des colères et des idées.
Alors quand vous écoutez la musique ensemble, avant d'en faire ou pendant ou après en avoir fait, Lou Berthaud, est-ce que par exemple, là on entend dans ce morceau, des, en tout cas moi, des guitares qui m'ont vraiment, qu'ont vraiment activé des heures d'écoute de, pour le coup, de musique traditionnelle d'Afrique de l'Ouest, voire de montagnes algériennes, voire de montagnes marocaines. Est-ce que ça fait partie des choses que vous avez écoutées ou alors pur hasard, ça devient l'héritage de votre musique par porosité?
Eh ben, peut-être plusieurs choses. Bon, s'il y a des montagnes qui nous ont qui sont entrées dans notre musique, c'est comme on le disait tout à l'heure, sans doute plutôt. Enfin, s'il y a un désert qu'on connaît, c'est plutôt le désert de Bure, qui est dans le massif du Dévoluy, à 2000 mètres d'altitude, à côté de Grenoble. Ensuite, ces musiques, oui, bien sûr, on en a écouté beaucoup, pas seulement des musiques d'Afrique, aussi des musiques asiatiques, en grande partie, aussi des formes justement très étrange de musique américaine au sens large, pas seulement états-unienne, mais c'est encore une question de geste et puis d'instrument. Disons que cet instrument à trois cordes qu'on a souvent appelé le gembré, on n'aurait pas dû le faire puisque c'est le gembré, c'est l'instrument des Gnawa au Maroc. Et en fait, cet instrument à trois cordes, il existe partout. Enfin, c'est simplement prendre un objet qu'on appellera un manche, une boîte qu'on appellera une caisse, et puis choisir une distance entre un chevalet et un scié sur laquelle on appliquera des cordes. Et on trouve, par exemple, au Vietnam, le dan dai, qui est un instrument de cour, mais qui est aussi énormément repris dans des musiques populaires, et qui veut, dan dai, ça veut littéralement dire trois cordes. Et on a en Turquie le saz, qui est aussi un instrument à trois cordes. Bon, elles sont certes doublées, mais c'est toujours ces trois cordes, un manche, une caisse, qui a évolué aussi et qui a été repris par les musiques savantes, mais on a encore cette espèce d'objets quand même primitifs qui existent toujours et qui est justement puissant par sa simplicité. D'ailleurs, saz en turc, ça veut dire instrument, simplement, ou saz, c'est une gratte. Enfin, voilà, c'était essayer d'avoir cette simplicité-là qui existe bien sûr dans toute musique populaire du monde. Donc vous parliez de contact entre ces choses-là. Oui, ces contacts existent sans doute.
Et pour vous, c'est des contacts qui sont des contacts réels, réels, ils le sont tous, mais je veux dire, c'est merci les voyages ou merci Internet?
Ah, c'est merci plein de choses. C'est merci Emmaüs, c'est merci, oui, Internet, merci la bibliothèque et les médiathèques, et merci quelques voyages aussi, bien sûr. Mais disons qu'il y a quand même peut-être pas cette espèce d'exigence et d'efficience et d'exhaustivité qu'on peut trouver chez des ethnomusicologues.
Vous voulez dire dans votre musique à vous ?
Bah, dans notre musique et dans notre rapport à ces formes, il y a un attrait pour la chose singulière aussi. Enfin, donc pas forcément le devenir et l'étude sociologique de la musique d'une géographie. On a écouté beaucoup d'enregistrements de Alan Lomax, qui est peut-être un des premiers ethnomusicologues à justement abandonner cette espèce d'idéal
de documentation.
De documentation. Mmh. Et puis, donc, c'est aller dans un village, rencontrer les personnes de ce village et écouter ces musiques et prendre dans ces musiques, aller chercher la personne qui fait la variation la plus étrange de la musique qu'on pourrait appeler traditionnelle si on la met sur un disque et qu'on lui donne le nom de cette topographie. Donc, oui, finalement, c'est aller toujours chercher ces variations singulières.
Est-ce que c'est une sorte de détour pour pouvoir rejoindre la sienne propre de singularité? D'une certaine manière, à vous écouter, je me dis que ça vous permet de trouver surtout votre endroit à vous. Lou Berthaud et à bégayer.
Oui, peut-être. Après, notre endroit à nous, c'est...
Ça bouge.
C'est quelque chose... C'est la... Enfin, voilà, c'est ça. La juste distance, elle n'existe pas tellement. Enfin, et c'est... Peut-être se tenir toujours dans cette espèce d'intranquillité. Être pas trop près pour pas tomber dans l'enfer du particulier, de toutes les petites choses, et pas trop loin pour pas perdre... Pour pas ne voir que des silhouettes. Enfin, bon, la juste distance du peintre dont parle Pascal, qui est toujours ni d'un côté ni de l'autre. Bon, essayer de comprendre cette intranquillité, se dire qu'elle est salutaire parce qu'elle admet qu'il n'y a pas de salut, pas d'espace plein où se tenir.
Alors, comment ça se passe quand on doit se tenir dans un studio? Comment vous restez intranquille? Parce que jusqu'à maintenant, c'était pas forcément gagné de vous mettre dans un studio pour enregistrer un disque avec Bégayer.
Et on a eu beaucoup de chance parce que c'était pas un studio. C'était pas un vrai studio. Jusqu'ici, on a toujours enregistré des cassettes avec une table de mixage, 4 pistes et un magnétophone. Et il s'est trouvé qu'on a fait un concert dans une salle de musique actuelle lyonnaise, pas vraiment lyonnaise, c'est Fézin, c'est dans l'agglomération, qui s'appelle l'Épicerie Moderne. Et c'était l'occasion aussi de rencontrer les techniciens sons de là-bas, qui sont des personnes parfaites et merveilleuses. Et Cédric Béron, qui nous a fait le son ce soir-là, à qui on a parlé du disque qu'on envisageait d'enregistrer, nous a proposé de faire ce qu'on appelle une demande d'aide. Enfin, on a été comme suivis par ces gentilles personnes qui débordent quand même pas mal leur cadre, puisqu'elles sont libres de le faire, heureusement. Donc on s'est retrouvés sur la scène de l'Épicerie Moderne, qui n'est pas un studio, avec 2 techniciens qui se sont amusés à choisir des micros et tout en les encourageant à choisir le plus possible des micros singuliers et des positions intéressantes pour les placer sur les instruments, histoire que ça réponde aussi à cet instrumentarium, celui qu'on leur amène. Et voilà, on s'est amusé pendant 3 jours, ça a été très vite. Enfin, donc ce qui a changé pour nous, c'est beaucoup de répétitions et de travail. Une composition longue, puisque c'est un disque qui doit durer 40 minutes, ce qui est sans doute pas si impressionnant que ça, mais jusqu'ici on faisait simplement des toutes petites cassettes qui nous accompagnaient, qu'on pouvait dupliquer nous-mêmes. Voilà, se faire un disque, c'était une tentative, quoi, qui nous permette aussi de comprendre ce qu'on va bien pouvoir faire ensuite.
Puisque vous parlez de l'instrumentarium, on va écouter Daniel Warou parler de la fabrication des instruments.
À partir de 1981, j'ai commencé à fabriquer vraiment, à essayer de récupérer le matériau, la peau, les fleurs de canne à la saison, les grains secs, tout ça qu'on met dans le caillon, à chercher partout. Et là, tous les ans, à chaque saison, je repérais les feuilles de canne et tout ça. Quand j'ai découvert le mariage, je me suis mis tout de suite à fabriquer un instrument, hein, le cayam.
Expliquer un petit peu ce que c'est le cayam.
C'est une fille à main virée avec son cayam qui secoue devant, qui secoue latéralement, mais devant, à des 2 mains comme ça, en chantant. C'est le bruit qui chasse les esprits aussi, hein, c'est le chik-chik-chik-chik qu'on retrouve dans la tumba à Madagascar, ce son-là, c'est rythmique. On retrouve au Mozambique aussi. Je crois que le mot kayamba au Kenya, on retrouve. À Mayotte, il y a aussi le même instrument. Un peu le même instrument, le même rôle aussi. Donc c'est cet instrument-là, fait avec des tiges de la hampe, de la fleur, de la canne à sucre, très léger. Et puis avec des graines à l'intérieur, une caissette. Les graines roulent sur les tiges. Et ça fait un son très sec, très tchik-tchik-tchik comme ça. Donc j'ai commencé à fabriquer, à avoir un cayam, mais à faire, coller, tresser, en fait, différentes façons, clouer. Et j'ai commencé comme ça, à faire des instruments, à monter une peau sur un tonneau pour faire le rouleur, pour faire la basse, le tambour de basse. Mais c'est comme ça, quoi. Et puis j'ai fait pour moi, j'ai fait pour des amis. On prenait un conseil, et ça et là, quoi. Il y avait Finalement, il disait, bon, pour garder la peau, par exemple, la peau de bœuf, une peau de bœuf crue, ben, on mettait de la cendre pour protéger, pour empêcher les mouches de pondre, tout ça. Et voilà, on prenait ça comme renseignement et après on se débrouillait. C'est moi, mon frère aussi qui s'occupait un peu de ça aussi. Il est toujours un peu dans la culture aussi, dans le Maloya. Les gens me demandaient, donc après j'ai mis un prix et ça a commencé à être mon métier.
La rose est tombée, la rose est tombée, wayo. La rose est tombée, waya, tombe de Simontaine. Mon maman, mi mange caribou l'ail. La calcinoa, la waya, mi mange l'orange chez nous. Ah, canon l'a pas tiré, mettons ça pour baron.
Daniel Ouarou, en 2004, bon, c'est un immense musicien réunionnais, une grande figure du Maloya contemporain. Qu'on entend pour le plaisir de l'entendre, mais aussi parce qu'il parle de la manière dont pour lui ça s'est imposé. Il dit « Quand j'ai découvert le Maloya, j'ai fabriqué mes instruments. » Et c'est en réécoutant l'archet, je me suis dit « Tiens, c'est marrant, c'est au moment où il découvre un des trucs qui va devenir le plus important pour lui dans sa vie de musicien et d'artiste, il se dit « Bah, en fait, il faut que je fabrique des instruments adéquats, alors qu'il en existe, évidemment. » Et tout à l'heure, vous disiez en tout début d'entretien, Louberto, il a fallu tout de suite fabriquer des instruments qui font sens. Comme si pour faire la musique précisément comme on voulait la faire, bah, il fallait faire aussi l'instrument pour la faire. Comment ça s'est présenté pour vous ?
Pour nous, il y a eu plusieurs moments. Enfin, on a passé beaucoup de temps à se demander quelle musique on allait jouer. On a d'abord, avec Bégayé, été un trio de musique improvisée, noise, bruitiste, très violente, sans trop savoir vers quoi on allait. On a fait quelques semaines de résidence, si on peut dire ça comme ça. Bon, on était simplement chez des amis avec tout un tas d'instruments posés à essayer de se demander quelle musique on allait bien pouvoir jouer. Et ça a toujours rien donné. Enfin, on s'est retrouvé au bout d'une semaine, sur les deux dernières heures, à prendre une guitare, à jouer quelque chose et à se dire « Ah tiens, on pourrait mettre une guitare, c'est super, c'est une belle résidence, bravo !» Et en fait, ce qui a fondé la composition des nouveaux morceaux, c'est la création d'une guitare, justement, avec Lucas Ravinal. Et donc, comme je vous le disais, on vivait juste là en face de l'autre. Alexis vivait aussi dans le même foyer jeune travailleur que Lucas. Et on s'est retrouvé dans la chambre de Lucas à bricoler une guitare toute simple dans une boîte de Palais Breton en récupérant le manche d'une vieille guitare électrique bon marché qu'on a pris. On s'est amusé à défretter, vous savez, les frettes, c'est ce qu'il y a sur le manche qui permet donc de placer ses doigts et d'obtenir des notes tenues avec du sustain, comme on dit. Donc quand on enlève ses frettes, on peut commencer à faire des glissando très longs, et puis ça nous permet aussi de s'affranchir de la gamme tempérée occidentale, donc d'aller chercher des quarts de ton, comme on dit, qui ne sont pas des quarts de ton, mais simplement aller chercher d'autres notes. Donc cette guitare, ça nous a amené à trouver trois chansons très rapidement, et puis surtout, ça nous a donné envie de construire d'autres instruments. Mais bien sûr, l'instrument influence beaucoup. Je connais assez peu Daniel Ouarou, finalement. Je pense que les deux autres l'ont plus écouté que moi, mais en écoutant cet archive qui est magnifique, je pensais à Alain Peters, que je connais beaucoup plus parce que je l'ai pas mal écouté. Et chez lui, c'est drôle.
Pour le situer, on est toujours à La Réunion, mais c'est un peu moins Maloya pur. C'est plus mélangé, on va dire. C'est moins Maloya pur.
Oui, il y a aussi toute une espèce de racine de rock progressif, mais pas seulement. Enfin. Et ce qui est drôle chez Alain Peters, c'est qu'il y a un instrument aussi qui vient être une influence. C'est un instrument qui a pas tellement de nom. Il l'appelle le takamba, mais alors quand on demande, c'est d'après lui un instrument qui viendrait du Niger, un instrument à trois cordes avec une caisse et un manche. Et quand on demande à des Nigériens ce que c'est qu'un takamba, pour eux c'est une musique, le takamba, enfin, c'est, ou une forme, avec justement un petit instrument à trois cordes, mais qu'ils appellent plutôt des gonis, et une calebasse frappée. Et il y a cet instrument-là qui, à un moment, je crois, est offert par son père.
Alan Peters.
Et qui directement invente un disque à partir de cet instrument. Ça devient vraiment son, sa table d'architecte, un endroit où, sur lequel dessiner. Et il passe ses journées à le travailler et à écrire des chansons à partir de lui.
Et ça a été votre cas ?
Eh ben oui, parce que ces petits instruments tout simples, enfin le cas avec les instruments inventés de bégayer, oui, puisque c'est des choses qu'on peut attraper en étant affalé sur un canapé à côté, commencer à jouer. C'est des instruments qui tirent directement la composition vers de la mélodie. Puisque trois cordes et aucune frette, c'est forcément une gamme diatonique très simple et qui va tout de suite appeler du chant et tout de suite appeler des paroles très simples également. Et oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui ressemble au mouvement qu'a pu avoir Alan Peters avec le takamba, en tout cas cette espèce de instrument simple qui appelle une musique simple.
C'était une bonne résidence, finalement, cette résidence que vous avez terminée par vous dire qu'il fallait mettre une guitare.
Oui, oui, bien sûr. C'est toujours une bonne résidence de passer un peu de temps avec des copains à parler de choses et d'autres, même sans travailler. C'est fécond, forcément.
C'est une guitare qui di provenienza sicuramente barocca, cinquecentesca barocca.
De provenance baroque du 16e siècle.
Oui, et à 10 cordes. Un metal, il metallo, e sono a due a due.
Due par due.
Sono due, dieci, cinque corde doppie.
Cinque corde doppie.
E lo spessore delle corde è lo stesso.
E l'épaisseur de la corde è la même pour les 10 cordes.
Esatto. E in più la guitare ha.
C'est pour quel effet, scusez-moi, Pino?
Quoi?
C'est pour quel effet?
Oui, l'effetto è di rendere questo suono metallico.
E
un suono metallico che però grazie alla bombatura della chitarra,
perché derrière vous avez vu elle a une sorte de elle est bombée comme ça,
comme un luth, un peu. E l'effetto è quello che il suono, l'effet de corps, c'est que le son est de la
caisse de résonance.
Esatto, de la caisse de résonance, c'est que le son reste beaucoup dedans. Alors, on peut avoir une sorte comme une espèce de gironde.
Oui, c'est ça, comme une espèce de ritournelle qui revient, et qui est justement spécifique à cette fameuse tarentelle, puisque la tarentelle.
Que c'est quelque chose d'obsessif.
D'obsessif et de répétitif.
Di répétitif, exact.
Qui mène jusqu'à la transe.
Esatto, oui. Esatto. E questa e questo diciamo ritmo ipnotico un po'.
Un rythme hypnotique.
Oui, et en plus, oui, c'est le son qui reste dans les accords. On joue les accords et le son de l'autre accord de l'accord que tu
précédent,
qu'on a joué,
se oui, mêle.
Avant, exact.
Il y a une espèce de fondu enchaîné permanent.
Alors de chanter dedans, c'est vraiment très est molto piacevole.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux et Louis Berthaud.
I Giorni, c'est un titre de votre disque bégayé. Terra Amir, une maison rétive contrainte par le toit. Et juste avant, l'Uberto, on entendait une archive de 2000 de l'émission Equinox où un grand interprète napolitain, Giuseppe Di Vittori, se bataillait le langage entre la traductrice qui devait le traduire vers le français et la productrice de l'émission, Caroline Bourgin, qui elle-même faisait des allers-retours entre l'italien et le français. Alors peut-être d'une part pour parler de la musique, de la tarentelle, de l'Italie, puisque vous avez commencé par une grand-mère et italienne et un grand-père qui joue de la mandoline dans la salle du fond, mais avant toute chose pour parler de cette espèce de navigation hyper facile entre au moins quatre langues dans votre disque et aussi en concert. Pourquoi, ça veut dire quoi et en quoi c'est constitutif de bégayer?
C'est une histoire d'hybridation, enfin si vous voulez quoi, l'hybridation qui est le contraire du mouvement identitaire. Les langues, c'est des terrains de tentatives pour essayer des choses aussi, et puis donc encore des objets inquiétants qui pourraient venir mettre à l'épreuve notre manière d'écrire ou notre langue à nous. Et ensuite, la traduction, pour moi, de manière aussi beaucoup plus simple, ça a été simplement une manière de retrouver des amis, de travailler avec eux et de travailler quasiment à des co-écritures de textes à partir d'un poème français, mais ensuite ça devient tout autre chose.
Par exemple, on écoutait le titre qui ouvrait le disque qui est chanté en arabe et qui dans le disque existe en langue arabe. Ça, c'est des chansons qui ont été traduites, c'est des poèmes qui ont été traduits. Vous vous dites, j'écris un poème en français et je vais voir avec un copain qui parle arabe et puis on va voir ce que peut donner cette chanson en arabe, par exemple.
Oui. Bah, on avait déjà la musique pour cette chanson, pour La Pente, Al-Mil. Et je commençais à travailler un petit peu avec un ami, Abou Bakar So, à Grenoble. Et je lui ai proposé un jour, je l'avais d'abord contacté pour travailler sur des enregistrements de chants exilés, puisqu'il travaillait, il est réalisateur, il travaille sur la diaspora tchadienne en France. Et je lui ai proposé, comme ça, un peu par hasard, en pensant à ce morceau qui a une résonance un peu sans territoire, qui va se promener un peu partout, mais simplement, je me suis dit que ce serait assez amusant d'essayer ensemble une traduction vers l'arabe. Et là-dessus, il a pris le texte, il m'a laissé poireauter pendant à peu près une semaine, je savais même pas s'il était en train d'en faire quelque chose, et puis il m'a appelé un jour en me disant « on vient de traduire cinq des textes du disque, si tu veux rejoins-nous, je suis avec mon ami Haroun ». Et donc je les ai rejoints, et puis on a passé une journée géniale et studieuse, avec un triangle vraiment amusant, puisque... Abou, il parle un français vraiment excellent, littéraire, et un arabe un peu plus quotidien, c'est ce qui permet de se parler dans la vie de tous les jours, et bien sûr la langue locale de son village au Tchad. Et Haroun, qui est soudanais, il a un rapport à la langue arabe qui est... très soutenu, puisqu'il me semble qu'au Soudan, il y a une éducation coranique assez importante, et donc par l'intermédiaire des textes et de cet arabe coranique qui est quand même différent de l'arabe littéraire, mais qui a quand même des ponts, enfin, ça les amène aussi très vite à avoir un rapport de la langue et du poème. Et donc c'était très drôle, puisque on devait toujours passer par Abou Bakar pour se comprendre, puisque Haroun ne parle pas français. Et bon, il y avait cette espèce de cercle permanent, ou triangle, ou je ne sais pas trop quoi. C'était assez drôle.
Et comme vous dites, l'Uberto, c'est quand même exactement à l'inverse d'autres mouvements qui aujourd'hui se fixent beaucoup sur ce que c'est que vivre en France, parler français, être français. Votre musique, elle dit quelque chose, elle dit beaucoup de choses qui sont à l'inverse de tout ça, quoi. Ça circule beaucoup, ça tourne beaucoup. Il y a beaucoup de joie de ces mélanges-là. Et quand on entendait ce grand musicien interprète parler de la tarentelle, et essayer de se faire comprendre au milieu de ce tournis de langue, et ben, il y a aussi des choses qui sont de cet ordre-là, de la transe, de la guérison par la transe musicale dans la musique que vous faites.
Oui, sans doute. En tout cas, il y a bien sûr un travail de transe. Puisque même dans le mode de composition, on a cherché des dispositifs qui nous permettent de tenir assez longtemps dans quelque chose qui est quasiment improvisé. On a supprimé la métrique, par exemple. Il n'y a plus qu'une pulsation, c'est-à-dire qu'on compte pas 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. On compte simplement 1, 1, 1, 1, 1, enfin, c'est-à-dire qu'on ne compte pas du tout, en fait. Et il y a des sortes d'appels qui nous emmènent d'une structure à une autre.
Et qui peut être produit par tout le monde, l'appel ?
Alors ça dépend, c'est souvent plutôt par l'instrument soliste ou le chant. En fait, c'est quelque chose qui nous a été soufflé bizarrement par les musiques roumaines, ou roms, parce que ça existe dans les deux, autant dans la musique populaire roumaine que dans la musique gitane. C'est en fait cet endroit où il y a tout un orchestre qui tient simplement sur un seul geste, quoi, un ta 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 ta, et puis le chanteur lance comme ça 4 ou 5 strophes sur ce rythme, et il y a un moment où le chant va glisser comme ça vers un autre morceau de mélodie, et tout l'orchestre glisse derrière, un petit peu comme dans cette interview peut-être, où il y a des voix qui se poursuivent comme ça, et puis ça fait quelque chose de très drôle, comme un dessin animé, une course-poursuite.
Vous parliez de poèmes traduits d'une langue vers l'autre, Lou Berthaud, puis je signalais en introduction la parution d'un livre où il y a des textes assez courts qui peuvent s'apparenter à des textes assez courts ou à des poèmes, selon le nom qu'on leur choisit. Et tout à l'heure, vous disiez aussi qu'une partie de la rencontre autour de Bégayer avait procédé de la surprise de lire les mêmes choses, en tout cas de lire des choses qui se ressemblaient. Alors ça veut dire que c'est un geste artistique qui est nourri de littérature, manifestement, tant du point de vue de l'écriture que de la lecture. Ce sont quoi ces lectures communes qui vous ont permis de vous retrouver joyeusement ?
Moi, j'avais pensé à vous parler de Ramu, qui est un auteur dont on parle souvent avec Lucas, puisque il a toute une idée de l'écriture paysanne qui est passionnante, mais paysanne toujours en tant qu'écrivain. C'est un écrivain suisse qui a vécu un tout petit peu à Paris, mais qui a passé beaucoup de temps chez lui. Et il y a un passage assez intéressant dans son journal où il se défend d'être nationaliste. Il dit « je ne suis pas nationaliste », il se défend d'être patriote. Il dit « je ne suis pas peut-être patriote » pour finalement dire « je suis paysan ». Et c'est cette idée-là qui nous a beaucoup frappé, puisque qu'est-ce que c'est que ça qu'être un écrivain paysan? Bon, c'est l'endroit d'une terre. Alors, c'est peut-être être simplement mis en stupeur par la grande fécondité d'une terre qui nous a un peu construit, d'une manière ou d'une autre, mais sans savoir où cette terre commence et où elle s'arrête.
Ibani Fabonia, Alabi Brakadi, Ibani Fabonia, Alabi Kunaja, Ibani Fabonia, Alabi Brakadi, Ibani Fabonia, Alabi Kunaja, Mani Vakoma, Kungana Sira, Mani Vakoma Londo, Kungana Sira, Kwalingawa, America, Kwalingawa, Dununya yoro bela ko fade ade abo ninyene ngole nkoro chetiye ibani fabonya alabi brakadi ibani fabonya alabi kunaja mani vakoma kungana sira mani vakoma londo kungana sira kwalingawa Amerika kwalingawa
Quand le chant a commencé, vous avez dit bon bah c'est parfait parce que précisément ce sont des chants, ces chants exilés, on les appelle comme ça, que vous avez commencé d'enregistrer, de récolter, Louberto, qui sont des chants d'un certain endroit. Ici on entend Amidou. C'est la dernière chose qu'on évoquera pour parler du spectre de votre travail. Alors on l'évoque comment? On en dit quoi? Que vous enregistrez des gens en leur demandant de vous chanter des chansons qu'ils aiment?
Oui, c'est ça, c'est un procédé extrêmement simple, c'est un tête-à-tête, 10 minutes d'entretien, une chanson chantée, un portrait en 35 mm, une photographie. Et alors d'abord, voilà, c'est ça, chanter un chant que vous aimez et qui serait quelque chose qui vous a accompagné dans une itinérance et qui vient aussi d'un arrachement qui est cousin d'un chant natif mais qui en plus a subi cette espèce d'arrachement là. Et ensuite, bon, comme c'est un chant, c'est aussi l'endroit d'une certaine pudeur. On n'est pas là pour exhiber des stigmates ou quoi que ce soit, plutôt voir qu'est-ce que ça raconte, une chanson qui a d'abord été chanté quelque part et puis ensuite ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Enfin, c'est drôle parce que là, comme ça, chanter a cappella, ça a l'air d'être un chant traditionnel, je sais pas trop. En fait, c'est une chanson de Tiken Jaffa Coli, qui est un grand chanteur de reggae et qui influence beaucoup les jeunes d'Afrique de l'Ouest. Et, bon, donc il a emmené cette chanson avec lui et vraiment, il la fredonne sans arrêt, comme une sorte de mantra aussi pour traverser les jours.
Puisqu'on a beaucoup parlé de la musique qui existe dans la vie tout le temps, ben c'est très bien de terminer avec ça. Merci beaucoup Louberto. Je rappelle le titre de ce disque de bégayer, Terrain Amir, une maison rétive contrainte par le toit. C'est une coproduction entre le label Bongo Joe et le Soul. Et le titre de ce livre, Il n'y a aucun rythme et pas de nuit. C'est suivi de lettres et c'est aussi aux éditions du Soul. Il faut vraiment que tout le monde aille vous voir en concert.
Merci à vous.
Au son ce soir, c'était Pierrick Monsigny à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture, quand vous voulez sur franceculture.fr et aussi en podcast, parce qu'on peut s'abonner au podcast de Par les temps qui courent. Un très grand merci à Jeanne Aléos, à Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor et Lou Quevauvillier qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Très belle soirée sur France Culture. Oh,
complètement.